Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu, à ouvrir vos Bibles, dans les psaumes. Les psaumes au chapitre 25, et nous lirons les 13 premiers versets de ce chapitre. Psaume 25, les 13 premiers versets. Je lirai dans la version « Parole de vie ». Il y a un titre dans ma Bible qui dit « Guide-moi, pardonne mes fautes, Seigneur ». Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte, que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte, mais la honte est pour ceux qui te trahissent. Qu'il reste les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la route à suivre. Il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle à ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, pour montrer ta gloire, pardonne ma faute qui est si grande. Si quelqu'un respecte le Seigneur, le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Amen.
Chers amis, chers frères et sœurs, c'est une joie que de me trouver parmi vous, de voir vos chers visages, bien des visages connus, des cheminements que l'on a vécu ensemble ici et là. Je voudrais remercier vos responsables, votre pasteur, de m'avoir donné cette joie avec mon épouse de partager cette matinée de culte avec vous. Si ce matin, je vous montrais cette lampe, vous connaissez cela, et s'il y a des enfants avec nous, ils connaissent bien la lampe magique d'Aladin. Tu connais cela ? Si je vous disais ce matin que cette lampe a la possibilité de réaliser tous vos souhaits, qu'est-ce que vous demanderiez? Je pense que vous demanderiez ce qu'il y a de meilleur, et c'est normal. Meilleur pour votre conjoint, pour votre famille, pour vos enfants, pour vous-même. Cette nostalgie pré-chrétienne qui existait dans l'Antiquité, nous en avons nous-mêmes hérité, quelque part. Nous avons des moments dans notre vie où l'on nous demande d'exprimer nos désirs. On vient de vivre ce passage des vœux, on a souhaité des vœux aux uns et aux autres, et nous sommes pendant tout ce mois de janvier encore dans cette effervescence de vouloir procurer de la joie à ceux qui nous entourent. Il y a le moment de notre anniversaire où nous exprimons des vœux. Il y a le moment où nous commençons la vie à deux dans le mariage. Il y a tant d'époques dans notre vie où l'on est appelé à exprimer ce que nous attendons, ce que nous désirons, ce que nous voulons. Et nous réagissons toujours quelque part avec un petit peu de magie dans nos attentes. Les enquêtes des sociologues ont révélé que cela tourne autour de trois axes principaux: la santé, l'argent et l'amour. La santé, sans trop de privation. L'argent, sans trop d'efforts, de préférence. C'est beaucoup mieux. L'amour, sans compromis. En un mot, que tout aille bien dans notre vie avec un minimum d'efforts. Ce plan idyllique, eh bien, est aussi celui de Dieu pour nous. Et il l'a exprimé tant de fois dans ce livre. Et je vous invite à reprendre avec moi un texte que vous connaissez bien, du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12, au verset 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. Toi, tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Un philosophe de la ville de Tunis au 5e siècle disait, quand il parlait de la divinité, « Nos cœurs ne peuvent que reposer en toi. » Et nous croyons, et nous chrétiens, nous sommes prêts à nous associer à cette pensée. Nos cœurs ne peuvent reposer qu'en toi. À toute époque, on a voulu satisfaire au bonheur. Les politiques, eh bien, ils nous disent, nous sommes là pour assurer votre bien-être et quelque part votre bonheur dans la population. L'industrie des médicaments, nous sommes là pour vous donner une vie heureuse avec moins de souffrance, moins de douleur, moins de vieillesse, vous permettant de poursuivre vos performances, quel que soit l'âge que vous avez. Aux USA, lorsque vous entrez dans ce port de New York et que vous voyez cette statue de la liberté, il est écrit en bas une constitution qui a pour but de respecter tout individu, d'où qu'il vienne, et de préserver ses droits. En un mot, le bonheur. Dans un article du journal Time qui traitait de la science de la félicité, il était écrit « Nous ne sommes pas programmés pour mourir, mais pour vivre. » Et c'est bien là notre espérance en tant que croyants. Nous sommes là aussi pour essayer que les conditions de vie soient les meilleures possibles et que chacun de nous, comme le dit l'Écriture, ait suffisamment d'argent pour ne pas maudire Dieu, l'oublier. Qu'il ait suffisamment de santé pour pouvoir être en bénédiction pour ceux qui sont autour de lui, qu'il y ait de l'amour qui règne auprès des uns et des autres. Et puis, nous voulons garantir ces éléments. Et nous allons faire des analyses. Et un beau jour, on nous dit, tu as une tumeur. Nous voulons essayer de conserver ce capital que nous avons, un petit peu de l'argent, et on ne cesse de nous dire nous sommes en période de crise. Nous voulons garder aussi ce capital de l'amour que nous partageons dans les foyers entre couples, et là aussi nous passons par des crises. Nous découvrons aussi que dans les feuilletons télévisés, les héros tombent malades, meurent, perdent de l'argent et sombrent, se croient aimés et sont trahis. Alors, où se réfugier pour avoir le sentiment d'être heureux dans des satisfactions parfois passagères, pour oublier un petit peu comme la lampe magique, avoir un temps d'illusion. Et nous allons voir un film de fiction pour oublier la grisaille de la vie quotidienne. Mais lorsque l'on ressort, eh bien, nous retrouvons nos problèmes. La lampe magique n'a pas fonctionné. On mange un bon repas entre amis, dans la famille, on se retrouve. Ça a été l'occasion de ces fêtes, il y a peu de temps. Et puis, lorsqu'on regagne sa voiture, un parent nous prend par le bras et nous dit « Tu sais, un tel, ben, il est mort. » On veut se rajeunir pour se sentir bien dans sa peau, pour perdre quelques kilos, pour enlever les pattes d'oie disgracieuses. On cherche à avoir la meilleure apparence possible. Et puis de temps en temps, le chirurgien nous dit « Stop, hein, ça ne va plus. » La lampe magique ne fonctionne plus. Que cherchons-nous sans trop nous l'avouer ? L'admiration des autres ? La popularité ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes faits du même bois que les autres. Et nous souhaitons quelque part que ceux qui nous regardent toujours sous un aspect favorable. Et rappelons-nous la loi de l'évangile païen qui quelque part dit « Fais ce que tu veux, après tout, tu le vaux bien ». Pourquoi ne sommes-nous pas heureux ? Eh bien parce que nous vivons dans un monde avec des êtres que nous sommes qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Nous vivons souvent dans deux directions, la nostalgie du passé et la projection dans l'avenir. Demain sera mieux. Et devant cette pensée, la Bible nous dit autre chose. La Bible nous parle d'aujourd'hui, de cet instant que nous vivons. Vous vous souvenez de ce texte rapporté par l'évangéliste Matthieu au chapitre 6 et au verset 34. Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. L'aujourd'hui, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous vivons intensément ces moments de l'aujourd'hui, qui se gravent dans notre mémoire et nous en vivons pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, ce qui compte, c'est le temps présent et Dieu nous place toujours dans ce présent, dans ce quotidien, dans cet aujourd'hui. Jean-Paul Sartre disait « Nous sommes des infirmes parce que nous voulons vivre hier ou demain, mais pas aujourd'hui. » Si je trouvais aujourd'hui cette lampe magique et que je la donne à l'un de vous, et qu'elle ait la capacité d'exaucer votre vœu, qu'est-ce que vous croyez que les uns et les autres qui sommes réunis ce matin demanderaient ? Quand on tourne le bouton de notre télévision et que l'on voit ces peuples qui sont en guerre, on souhaiterait la paix. C'est quelque chose qui nous atteint profondément, même si nous vivons dans un pays en paix. D'autres auraient peut-être des attentes particulières pour leur époux, leur épouse, qu'ils soient plus généreux, plus attentifs, plus présents. La Bible nous parle aussi d'une lampe qui est pour notre bien-être, ce que Dieu veut. Et que de textes nous dit qu'il est à nos côtés, qu'il est présent, qu'il chemine avec nous, qu'il ouvre le chemin, qu'il l'éclaire. Souvent le Seigneur aussi nous dit, Je suis là pour ta joie. Fais-moi ta liste. Allez, écris. Imaginons certainement que si Dieu nous parlait ainsi ce matin, nous aurions beaucoup de choses à lui demander. Pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que nous souhaitons toujours le meilleur. Et alors qu'une année commence, nous souhaitons qu'elle soit différente de celle qui est passée. Nous souhaitons qu'elle soit habitée pour chacun de nous du bonheur que Dieu souhaite. Il n'y a pas de recette magique. Il y a vivre au quotidien. Et puis réfléchir à ce que nous demandons. Et quand nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 26, vous connaissez ce texte par cœur, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et bien d'autres textes qui nous rappellent que nous ne sommes pas dans ce quotidien, dans cet aujourd'hui, dans ce présent. Et cela peut être très grave. Cela peut nous amener à des conséquences que des fois nous ne soupçonnons pas lorsque, au départ, nous demandons certaines choses. Rappelez-vous de l'exemple de Salomé lors de ce festin. Ce roi puissant, Hérode, qui est prêt à lui donner la moitié de son royaume, c'est le jour de son anniversaire. Alors tout ce que tu veux, demande-le-moi, fût-ce la moitié de mon royaume. Et puis par manipulation, il y avait là un ennemi à abattre, quelqu'un de gênant, toujours présent devant Hérode. Et elle lui dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Voyons à présent une autre demande célèbre que vous connaissez bien, aussi celle de Salomon, dans le livre des Rois, 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Verset 7. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. » Verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Verset 11. Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. Il n'a pas demandé pour lui. Il a souhaité le bonheur pour son peuple et il savait que c'était difficile que de mener une nation. Il a dit, ce que je te demande, c'est que tu me donnes l'intelligence. Et je crois que en ce début d'année, ensemble, nous pouvons nous référer à ce que Salomon a demandé. Puisse Dieu nous accorder l'intelligence pour discerner dans quel moment nous vivons. Puisse-t-il nous donner ce sentiment que nous avons une appartenance à un peuple qui est celui de Dieu et que nous devons être solidaires les uns des autres. Puissions-nous demander à Dieu qu'il nous dirige dans nos vies personnelles, aujourd'hui, maintenant, mais aussi pour l'avenir. Et alors que nous allons vivre une année faite d'assemblée, que Dieu puisse donner à ceux qui auront cette responsabilité de choisir des hommes, des femmes, la sagesse, celle qui vient d'en haut. Parce qu'il y va du peuple de Dieu, il y va de l'annonce de son royaume, quoi de plus beau que la préparation de campagne d'évangélisation, que de préparer des champs pour accueillir ceux qui viennent, qu'ils se sentent bien dans ce lieu. Que Dieu puisse vous bénir dans tous vos projets. C'est la levée de mon cœur. Amen.